Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Nico Kalambay.
À la une ce soir, paralysie des activités socio-économiques signalée ce jeudi à Beni. Tension également à Butembo où une messe a été organisée pour demander à Dieu de rétablir la paix dans la région, tandis que le gouverneur de province a, dans un point de presse, appelé toute la population du Nord Kivu à l'apaisement. La population de Matadi dénonce le monnayage du couvre-feu par certains agents des services de sécurité. Des témoins affirment que les taximen et ceux qui font le travail de nuit circulent aisément, moyennant quelques billets de banque versés devant les barrières installées par les agents de l'ordre. À Butembo, la ministre provinciale de l'Éducation appelle les autorités locales à s'impliquer pour la reprise immédiate des cours. Luanda Kamala Priska est notre invitée. Rebonsoir et bienvenue à tous à Beni. Une paralysie des activités socio-économiques a été constatée en cette journée de ce jeudi. Les jeunes des mouvements citoyens étaient dans la rue depuis les premières heures du matin pour demander la fin des massacres à Beni. On signale quelques arrestations des manifestants par les forces de l'ordre qui sont déployées depuis 4 jours dans la ville, tentant de remettre de l'ordre. Le point avec Marc Marofimbo.
Aucune activité était signalée ce jeudi jusqu'aux heures d'après-midi en ville de Beni. Les rues sont restées désertes, les barricades de manifestants observées dans plusieurs rues des quartiers et communes de la ville de Beni. La police ainsi que les forces armées étaient actives pour mettre de l'ordre en dégageant les barricades. Les manifestants qui ont réussi à atteindre leur destination finale à la base de la Monisco à Bouikene étaient en face des forces de l'ordre. On signale une dizaine d'arrestations suite au cas de dérapage. Un jeune a été blessé par balle de sommation pour disperser les manifestants. Des dégâts matériels aussi sont à signaler, notamment l'ambulance de la clinique Ma Famille attaquée par les manifestants. Par contre, vers 16h, une dizaine de femmes marchandes de vivres étaient visibles au petit marché Kilokwa de la ville de Beni. La population se précipitait pour se ravitailler en vivres. Certaines pharmacies et quelques alimentations seulement ont ouvert leurs portes tard dans les après-midi, signalant que les forces de sécurité sont toujours visibles dans les coins chauds de la ville pour remettre de l'ordre. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Les engins et équipements militaires destinés à la force spéciale mis en place au sein de la FIB commencent à arriver depuis hier à Beni. Il s'agit d'au moins 25 véhicules militaires qui faciliteront le travail de cette force spéciale qui sera plus réactive et mobile. Cela pour mieux faire face à l'insécurité dans la région et mieux protéger les civils. L'entrée de ces engins hier à Beni via le poste frontalier de Kassindi a suscité des réactions de certains qui accusent la MONUSCO de transporter des armes et des hommes pour une destination inconnue. Pour plus d'éclaircissement, nous avons les explications du commandant adjoint de la FIB, le colonel Juma Emmanuel Katungé. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Tous ces matériels appartiennent aux troupes des forces d'intervention rapide en provenance de la Tanzanie, dont les hommes sont déjà ici à Beni. Ils étaient arrivés par un vol spécial de la Tanzanie pour Goma, puis acheminés ici à Beni. Ce sont des troupes qui sont déployées dans l'objectif de sécuriser les agglomérations et villages et barrer la route aux menaces de ces forces irrégulières qui ne cessent de tracasser la population. Avec ces matériels adaptés au terrain, ces troupes auront la capacité de mobilité rapide pour mouvoir dans les agglomérations afin de sécuriser la population. Ainsi, toutes ces informations sur les médias et les réseaux sociaux ne sont que des propagandes de ceux-là qui tuent la population. Ils le font pour que la population soit en conflit avec l'armée et la MONUSCO, pour qu'elle ne soit pas à mesure de bien assurer leur responsabilité de protéger la population. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune arme, aucune machette, comme ça se dit dans la population. Tous les engins sont ici dans les camps. Ceux qui sont curieux peuvent venir le voir ici.
Je le disais en titre, situation tendue dans l'après-midi de ce jeudi à Butembo, 4e jour de la paralysie des activités socio-économiques. Des organisations qui ont décrété ces journées ville morte ont organisé une messe le matin pour demander à Dieu de rétablir la paix dans la région. À l'issue de la dite messe, les manifestants ont pris la direction de la base de la MONUSCO. Les forces de l'ordre ont dû tirer plusieurs coups de balle pour les disperser. Le commandant intérimaire de la PNC Butembo avance un bilan provisoire d'un policier blessé par les projectiles et de quelques arrestations parmi les manifestants. Grâce Hamzati pour le reportage.
À ce 4e jour de manifestation, la ville de Butembo s'est encore réveillée dans la léthargie. Toutes les grandes activités socio-économiques sont restées paralysées. Les boutiques, magasins, pharmacies, autres grands commerces sont restés fermés. La circulation, quant à elle, demeure timide. Ce jeudi matin, les manifestants ont organisé une messe au stade Matokeo, réunissant les chrétiens des différentes confessions religieuses. L'objectif de ces cultes, d'après les organisateurs, était d'implorer la grâce divine afin que la paix revienne dans la région de Beni, où l'insécurité n'a fait que trop durer. À la fin de la dite messe, la tension est montée d'un cran. Les manifestants ont pris la direction de la base de la MONUSCO. Les forces de l'ordre ont dû tirer plusieurs coups de balle en l'air pour les disperser. Quelques minutes plus tard, les manifestants sont rentrés au centre-ville et ont barricadé certaines artères, notamment au niveau de la galerie GTB sur la rue Kinshasa. Ainsi, des coups de balle sporadiques ont continué à se faire entendre dans la ville jusqu'à tard dans l'après-midi. Le commandant urbain de la police dresse un bilan provisoire d'un policier blessé et de 4 civils arrêtés parmi les manifestants. Cependant, le Parlement Debout de Fourou, un des organisateurs de la manifestation, affirme que le bilan serait plus lourd que ça. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Le gouverneur de province, Karlin Zanzou Kassivita, appelle toute la population du Nord Kivu à l'apaisement. Il lui rassure que des efforts sont en cours au plus haut niveau du pays pour mettre fin à la situation des massacres à Beni. C'était en présence de la société civile et une délégation des acteurs politiques de l'opposition. Plusieurs questions ont été évoquées dans ce face-à-face avec la presse locale ce mercredi à Goma. Sifa Maguru.
Lors de cet échange, Karlin Zanzou Kassivita a expliqué et soutenu l'idée des mutualisations des forces ainsi que le renforcement de la brigade d'intervention de la MONUSCO en vue de mettre fin au massacre de Beni et l'insécurité en général au Nord Kivu.
Il a été convenu de renforcer la FIB, la brigade d'intervention qui a plus un mandat plus robuste et ils sont en train de voir le redéploiement des forces tanzaniennes. On a aussi ajouté les Kenyans, les Népalais et l'Afrique du Sud qui est engagée. Nous observons ce redéploiement.
Le gouverneur s'est catégoriquement opposé aux manifestations contre la MONUSCO et les organisations humanitaires, mais aussi à la suspension des activités socio-économiques, car, dit-il, c'est la population vulnérable qui en paiera les conséquences. Pour sa part, le président de la société civile du Nord Kivu, John Banyene, lui a souligné qu'il n'est pas le moment de se jeter le pierre, mais de regarder dans la même direction et dans la cohésion. John Banyene.
La population est dans un désarroi, donc il y a une situation d'insécurité généralisée. Et si on peut commencer maintenant à se jeter des pierres, c'est pour dire que l'ennemi va nous écraser tous ensemble.
Patrick Bala, l'un des cadres politiques de l'opposition, pense que la mutualisation des forces, oui, mais d'abord, il faut rendre l'armée congolaise plus efficace. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Arrêtez de tuer vos frères. C'est par cette interpellation que les évêques catholiques recommandent les restructurations profondes, partant du président de la République, en passant par le gouvernement jusqu'au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo, en vue de faire face aux problèmes d'insécurité et des massacres dans l'est du pays. Dans un plaidoyer de paix et de compassion avec la population de l'Est ce jeudi à Kinshasa, les évêques de la Synco ont dépeint un tableau sombre de la situation d'insécurité dans l'Est, caractérisée entre autres par la porosité de nos frontières, la démotivation des militaires. Et voici quelques recommandations lues par le secrétaire général de la Synco, l'abbé Donatien Chollet, au micro de Jeff Ngoy.
Les forces armées de la République se caractérisent dans cette zone par une sédentarisation de certains officiers qui sont restés longtemps dans la région et s'opposent à être déployés ailleurs. La mendicité et le détournement de la solde des militaires de rang et de leur ration, d'où l'amenuisement de leur motivation. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, l'épuration de la sorte des militaires, la permutation effective des officiers affectés à l'Est. Il s'avère urgent de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions aux groupes armés à l'Est du pays.
Vous le savez sûrement, Radio Kapi a lancé cette semaine une série de productions pour mieux vous faire comprendre le mandat de la MONUSCO dans son volet de protection des civils de 2001 à nos jours. Nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie de notre reportage sur l'appui de la MONUSCO dans la lutte contre l'impunité dans la région du Kasaï, où des nombreuses violations de droits de l'homme ont été commises en 2016 et 2017. Alors que la mission onusienne prépare son retrait de la région, certains acteurs de la justice disent craindre pour la poursuite de l'aide en faveur des institutions judiciaires. Je vous propose de suivre ce reportage de Joël Bofengo.
La section des droits de l'homme de la MONUSCO encourage les victimes dont elle assure la protection à témoigner pour faire avancer les enquêtes menées au sujet des violations des droits humains enregistrées au Kasaï. Dans certains dossiers, comme le massacre présumé des civils à Nganza ou les viols présumés des femmes à Mulombodi, les droits de l'homme et la section d'appui à la justice ont également assisté le parquet dans ces enquêtes. Alors que la MONUSCO prépare son retrait de la région du Kasaï, certains ténors du barreau redoutent que ces départs mettent fin à l'assistance à porté à la justice. C'est notamment le cas de l'ancien bâtonnier, maître Dominique Kambala.
C'est à travers la MONUSCO, les organismes du système des Nations Unies, que la justice a été appuyée. Notamment, vous rappelerez, il y a les enquêtes conjointes qui ont été menées, qui ont permis à ce que la plupart des dossiers soient fixés. Maintenant que la MONUSCO part, le secteur de la justice risque d'être encore davantage pauvre en termes de ressources, en termes de moyens. Ça aura un coût fatal par rapport à ce combat, par rapport à la justice.
On visite à Kananga pour faire un état des lieux du processus de retrait de la MONUSCO. La chef de la mission onusienne a annoncé jeudi dernier que certaines composantes comme les droits de l'homme vont rester pour appuyer les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Les sociétés civiles des pays du bassin du Nil appellent l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan à trouver une solution qui privilégie la paix dans le conflit les opposant autour du barrage de la Renaissance. Cette problématique est depuis lundi au cœur d'une réunion réunissant des structures citoyennes à Kampala et en Ouganda. À Kampala. Selon Danny Singoma, directeur du CENADEP, participant à ces assises, la tripartite de Kinshasa ayant échoué, les sociétés civiles ont décidé de s'impliquer pour éviter, selon eux, une guerre qui risque d'embraser l'Afrique et le monde entier. Il ajoute qu'en tant que coordonnateur entrant du cadre de concertation de la société civile congolaise, il va faire un grand plaidoyer sur cette question auprès du président Félix-Antoine Tshisekedi en sa qualité de président de l'Union africaine. Danny Singoma au micro d'Alain Irunga.
Il s'est tenu à Kinshasa il y a quelques jours une conférence interministérielle des trois pays, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, à propos du barrage de la Renaissance, sous l'égide de la RDC, parce que la RDC préside l'Union africaine. Et cette réunion s'est terminée en quai des poissons. Nous savons que le conflit va arriver parce que ce grand barrage qui est conçu sur le Nil, l'Éthiopie veut le remplir à partir du mois de juillet. Et en remplissant ce barrage, l'Égypte craint qu'il sera privé de sa ressource d'eau, parce que l'Égypte ne vit que du Nil. Et c'est là, et l'Égypte est prête à se battre contre l'Éthiopie, le Soudan aussi est là, et qui essaie de jouer entre les deux, tout ça. Et nous pensons que cette guerre risquera de menacer la paix au niveau de toute la région de l'Afrique et même du Moyen-Orient, et ça serait une catastrophe. Donc la société civile va s'impliquer, et nous, comme c'est la RDC qui préside l'Union africaine, nous voulons être au devant de cette situation, au niveau du CENADEP, au niveau du cadre de concertation. Nous allons essayer de mener un plaidoyer auprès du président Tshisekedi, qui est le président de l'Union africaine. Nous voulons lui apporter l'appui de la société civile.
Notez que cette réunion de Kampala se clôture le samedi 10 avril. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, je le disais en titre, la population dénonce le monnayage du couvre-feu par certains agents des services de sécurité. Pour les Matadiens, donc, le couvre-feu n'est plus qu'un slogan. Des témoins affirment que les taximens et ceux qui font le travail de nuit circulent aisément, moyennant quelques billets de banque versés devant les barrières installées par les agents de l'ordre. La population de Matadi demande aux autorités compétentes de conscientiser et de rappeler à l'ordre les policiers qui s'adonnent à des telles pratiques. Des explications de Nana Plurichmambo.
D'après les témoins, pendant que les cas d'insécurité continuent à être déplorés dans la ville, les éléments de la police préfèrent rester dans les barrières où ils rançonnent les passants et autres conducteurs. Cet homme affirme avoir été rançonné.
Tous les jours, je regagne ma maison vers 23h ou vers minuit. Les barrières sont devenues leur business. Avant d'atteindre ma maison, j'ai franchi trois barrières et dans chacune, je débourse 500 francs. Et pour arriver chez moi en toute quiétude, certains policiers me raccompagnent et je leur remettre 1000 francs. Est-ce que ces policiers sont réellement rémunérés ou pas?
Au-delà des 21h, heure du début du couvre-feu, le policier commis à la rive droite du pont Maréchal érige leur propre barrière en amont de la barrière électronique du péage. Ils y perçoivent 1000 francs auprès des chauffeurs taxi de la ligne Boma Matadi. Pour la population, ces policiers qui tracassent des paisibles citoyens ne doivent pas seulement être châtiés, mais aussi écartés de la peine. Contactez le colonel Baudouin Kilima, commandant police ville de Matadi. Matadi indique qu'aucun policier n'a reçu l'ordre de percevoir l'argent de la population pendant les heures du couvre-feu. Baudouin Kilima invite à cet effet tous ceux qui détiennent des preuves des rançonnements des policiers à se présenter au commissariat urbain de la police ville de Matadi. Matadi, Nana Plerich Mambou, Radio Okapi.
L'invité. À Boutembo, la ministre provinciale en charge de l'éducation dans le Nord Kivu appelle les autorités locales à s'impliquer dans la sensibilisation des manifestants afin de faciliter la reprise immédiate des cours. Luanda Kamala Priska, qui séjourne à Boutembo, s'est confiée hier à Radio Okapi après une tournée effectuée dans les écoles de la ville dont les portes sont fermées depuis lundi. Luanda Kamala Priska exprime son inquiétude dans cet entretien avec Florida Kambo.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Vous avez effectué une tournée dans des écoles de la place en cette période où les activités scolaires sont perturbées à la suite du contexte actuel de la région. Quel était l'objet de cette tournée dans des écoles à cette période?
Oui, en fait ça a coïncidé juste avec ma mission ici à Boutembo. C'est depuis le lundi que les activités scolaires ont été interrompues. Et là, nous avons appelé les parents depuis le lundi pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. La tournée d'hier consistait à vérifier si les cours ont repris. Malheureusement, nous avons trouvé seulement les enseignants dans des écoles qui étaient prêts à recevoir les enfants, mais les enfants n'étaient pas présents. Et ceux qui venaient, ils rentraient, surtout dans les périphéries de la ville de Boutembo où on a signalé quelques barricades. Donc, c'était difficile pour les enfants d'aller à l'école. Mais nous continuons à sensibiliser parce que nous n'avons plus le temps à perdre. Nous devons récupérer tous les temps perdus et je profite de votre micro pour appeler cette jeunesse à être consciente par rapport à la situation que nous traversons, surtout dans les milieux scolaires, éducatifs.
La difficulté c'est du côté des parents où ils ont peur d'envoyer les enfants à l'école. Vous pensez qu'il y a moyen de prendre des dispositions pour que les cours reprennent dans ces conditions?
Juste sensibiliser parce que je sais qu'en tant que parent, on ne peut pas envoyer son enfant si on voit un danger qui est là devant. C'est juste de sensibiliser, c'est ce que nous continuons à faire, surtout les jeunes qui laissent libre passage à ces enfants qui vont à l'école. Et si cela est fait, je crois que les parents pourront prendre la décision d'envoyer les enfants à l'école. Donc ce que nous continuons, c'est de voir avec les autorités de la ville comment continuer avec les sensibilisations. Parce que déjà aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous avons perdu 3 jours. Je sais qu'il y a quelques endroits où les enfants étudient, mais nous voulons assez que ça puisse se généraliser. Que dans la ville de Boutembo, tout le monde soit à l'école.
À votre arrivée à Boutembo, vous avez fait savoir que vous êtes venu expliquer l'arrêté provincial fixant les frais de fonctionnement à payer dans des écoles. Que peut-on retenir de cet arrêté?
Avant que le gouverneur de province ne signe un arrêté, il y a toujours des orientations qui viennent du ministère de l'EPST. Au Nord Kivu, il y a un montant qui est destiné aux enseignants nouvelles unités. Dans les milieux urbains, c'est 80 000 francs et dans les milieux ruraux, c'est 40 000 francs. Et cet argent doit servir au paiement des enseignants nouvelles unités. Là, on ne fait pas de différence entre un enseignant de l'école primaire, secondaire et ceux qui se trouvent dans les bureaux gestionnaires. Mais dans les milieux ruraux, je tiens à préciser que nous avons constaté que les montants étaient très élevés, que dans la note circulaire que j'avais signée, il était demandé au comité de gestion de voir comment ils peuvent revoir ces frais à la baisse. Ça doit répondre aux réalités socio-économiques des milieux, pourvu que ces enseignants nouvelles unités soient prises en charge. Donc, ce sont ces comités-là de gestion qui pourront apprécier combien ils pourront payer pourvu que l'école fonctionne et les enseignants nouvelles unités trouvent aussi quelque chose.
Ces frais de fonctionnement sont payables par les écoles tant publiques que privées ou il y a une catégorie qui va payer?
Oui, les frais de fonctionnement sont payés par les écoles publiques et les écoles privées. Mais il y a une différence parce que pour les écoles privées, on ne prend pas les 80 000 francs qui sont destinés aux NU ou dans les milieux ruraux, les 46 000 francs. Il y a les gestionnaires de chaque école privée, les promoteurs qui gèrent l'école et qui connaissent combien il va payer à ses enseignants. Donc dans l'arrêté, c'est bien précisé parce que il y a d'un côté les frais qui sont payés dans les établissements publics et de l'autre côté, il y a des frais qui sont payés dans les établissements privés.
Alors vous avez moi ajouté pour finir?
Je dirais aux élèves de tenir bon pendant cette période des coronavirus, surtout aux élèves du Grand Nord, de ne pas baisser les bras parce que même pendant cette période, ils doivent continuer à apprendre l'apprentissage à distance. Donc, ils peuvent continuer à apprendre pendant qu'il y a interruption de cours. Et nous sommes en train de travailler sur ça pour que aussitôt possible qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école.
Madame la ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.